Voilà, bah écoutez, comme vous le savez, parce que je le répète depuis déjà pas mal de semaines, ce matin nous continuons, la semaine dernière je dirais terminerons, mais ce matin nous continuons notre série sur l'inspiration et la fiabilité de la Bible. Et nous entamons donc notre sixième partie sur le sujet. Si vous avez raté une ou plusieurs ou toutes les séries passées, vous pouvez les trouver sur notre site d'église. Chaque sermon se tient à lui-même, il est seul, mais bon, c'est vrai que c'est quand même une série, donc si vous voulez avoir le total, bien, je vous encourage d'aller chercher et écouter tout ça. Alors, juste avant de commenter, juste quelques points d'emblée pour ressouligner l'importance de notre étude. Dans Galates 1, Paul écrit aux Galates, et il dit ceci, Galates 1, 6, je ne vais pas les commenter, mais je vais vous lire, parce que vous allez voir combien important l'Évangile est ce que nous étudions. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, que si quelqu'un vous menace, vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul dit clairement ce que lui a reçu et a écrit vient d'une révélation divine de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 2, 17, Paul encore écrit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu ». Comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, et c'est de la part de Dieu que nous vous parlons en Christ devant Dieu. Et encore, chapitre 4, verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui ne se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience homme devant Dieu. Donc de nouveau, c'est encore d'autres versets pour répéter que la Bible dit d'elle-même qu'elle est vraiment la parole inspirée de Dieu. Et donc, l'étude que nous faisons sur la parole inspirée de Dieu est fondamentale, elle est importante, car nous voulons simplement prouver quelque part qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Alors, je révise très brièvement ce que nous avons déjà vu. Dans la première partie, on a vu la révélation de Dieu à l'homme. On a vu que Dieu se révèle à l'homme de trois manières. Premièrement, au travers de la création de l'univers. Deuxièmement, au travers de la conscience de l'homme. Et troisièmement, au travers de son Fils Jésus-Christ et de la parole inspirée. Deuxième étude, on a regardé ces versets très connus, 2 Timothée 3,16, l'inspiration divine des Écritures, où la Bible elle-même dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Dans la troisième partie, nous avons regardé le témoignage de Jésus par rapport aux Écritures, comment lui la percevait. Et dans la partie 4, 5, 6 aujourd'hui et 7 à venir, là nous regardons ce que j'appelle les preuves externes de l'inspiration de la Bible. On a vu que l'Ancien et le Nouveau Testament prétendent être la parole inspirée de Dieu, une révélation spéciale et directe de Dieu. Il est donc logique de conclure que la Bible devrait être imbibée de marques surnaturelles. Et donc il y a 15 preuves que nous pouvons voir qui nous prouvent l'inspiration surnaturelle de la Bible. Donc dans la quatrième partie, on a vu sa conception, la conception de la Bible de Jésus-Christ, du salut de l'homme, de son unité surprenante et de son indestructibilité. Donc ça, c'était la partie 4. La cinquième partie, on a regardé son exactitude historique, scientifique et médicale. Et aujourd'hui, nous voulons voir son exactitude archéologique et prophétique. Alors, messieurs, dames, aujourd'hui, c'est génial. Moi, je me suis régalé cette semaine à réviser, réétudier ces choses, et j'espère que je vais vous, de nouveau pouvoir vous communiquer une petite partie de l'étonnement que moi j'ai reçu cette semaine en étudiant ces choses. Alors, passons tout de suite à l'exactitude archéologique de la Bible. J'avais déjà donné ces citations la semaine dernière, mais je la redonne. Le docteur J.O. Kinnaman a dit « Des centaines de milliers d'artefacts découverts par des archéologues, parmi tout cela, aucun n'a jamais été découvert qui contredise ou qui réfute ni même un mot, une phrase, une clause, ni même un paragraphe de la Bible. Archéologiquement, rien n'a été trouvé, encore aujourd'hui, qui ne contredise la véracité de la Bible. » Alors, j'aimerais vous donner deux exemples. Juste deux. Alors, il y en a des centaines, des milliers, il y a des livres écrits là-dessus, d'accord ? Je vous en donne deux. La première, c'est sur Jéricho. Alors, peut-être que vous le savez, ma fille revient d'Israël, où elle a passé 4 mois avec son université, à étudier la ville, la Bible, et à visiter de nombreux sites archéologiques, tous ces sites qui ne font que confirmer la véracité de la Bible. Et il faut savoir que ces récits, beaucoup d'entre eux, ont été critiqués au fur et à mesure des années. Alors, entre autres, elle a visité Jéricho, et elle m'a passé des articles hyper intéressants sur Jéricho. Donc, j'aimerais vous montrer un petit peu comment se passe le débat archéologique aujourd'hui dans le monde chrétien. Alors, tu peux l'arrêter pour l'instant, puis on y reviendra, d'accord, aux photos. Merci. Alors, regardons Josué 6. Prenez vos Bibles, allez avec moi à Josué 6, et on va déjà lire quelques versets pour nous mettre dans le contexte du récit. Josué 6. Alors, vous vous rappelez, le peuple juif remonte d'Égypte pour reprendre la terre promise. Et donc, le premier obstacle, c'est Jéricho. Et donc, ils doivent prendre la ville de Jéricho, Jéricho qui est entourée d'une immense muraille. Et donc, Dieu donne des prescriptions très spécifiques. Et au verset 14, il est dit ceci, « Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp et firent de même pendant 6 jours. » Donc, Dieu a dit au peuple, « Vous allez chaque fois, pendant 6 jours, faire une fois le tour de la ville. » D'accord ? Et le 7e jour, verset 15, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Donc le 7e jour, ils font 7 fois le tour de la ville. Verset 20. Le peuple ensuite poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Et le verset 24, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Et on s'arrête là. Alors voilà le récit biblique. Vrai ou pas vrai ? Historique ou pas historique ? Voilà la question. Sur la couverture du Time Magazine du 18 décembre 1995, se trouve une représentation de Moïse sur le point de briser les tablettes de pierre sur lesquelles Dieu avait écrit les 10 commandements. En gras est la question suivante. La Bible, faite ou fiction ? Dans les pages 68 et 69, il y a une grande section utilisée les contes de la Bible que l'on doute. Et puis, il y a ces questions. Abraham est-il un mythe? L'Exode a-t-il vraiment eu lieu? Moïse existait-il? Josué a-t-il conquis la ville de Jéricho? Il faut savoir que pendant des générations, le monde libéral a refusé de croire ce qu'affirme la Bible, jusqu'à que les choses soient prouvées sans ambiguïté. Et tel est le cas pour Jéricho. Voici ce que Time Magazine dit de Jéricho. Je cite. Les historiens conviennent généralement que la conquête de Josué aurait eu lieu dans le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais le chercheur britannique, la chercheuse, je ne sais pas comment on dit, Kathleen Kenyon, qui a fouillé Jéricho pendant 6 ans, n'a trouvé aucune preuve de destruction à l'époque. Ah ! Donc Time Magazine affirme que cette dame n'a rien trouvé qui prouve que Jéricho a vraiment été détruit comme la Bible décrit. Or, le texte biblique affirme que la ville de Jéricho fut détruite et brûlée. Ce qui est intéressant, c'est que la ville de Jéricho est visitable aujourd'hui. J'y suis allé moi aussi, en fait. Et au fil des années, parce que la ville a été détruite, elle a été reconstruite à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est un grand tel, un grand tas. Et là, on peut... Voilà. D'accord ? Ça, c'est l'ancienne ville de Jéricho. C'est ce qui reste aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Et on peut aller visiter, et on peut aller voir les digues, les trous qu'ils ont creusés pour faire des recherches dans la ville. Pour voir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Et au 19e et au 20e siècle, plusieurs fouilles archéologiques ont été menées, les plus importantes par John Garstang et Kathleen Kenyon. Alors Garstang, c'est le premier, lui, il a découvert les murs écroulés de la ville, des magasins de céréales, une ville brûlée, preuve de la destruction de la ville par le feu, bibliquement datée à 1400 avant Jésus-Christ. Ah oui, mais alors Kathleen Kenyon, elle, trouve elle aussi des murs effondrés, elle aussi trouve des magasins de grains, et même une couche de cendres d'un incendie massif. Toutefois, elle a une autre conclusion, différente. Plutôt que de s'appuyer sur le récit biblique, elle démentit le récit biblique. Pourquoi ? Car elle date la destruction de la ville aux alentours de 1550 avant Jésus-Christ, donc 150 ans avant la date suggérée par le récit biblique, ce qui signifierait que le site aurait été abandonné et par conséquent, il n'y avait pas de ville pour les Israélites pour qu'ils puissent la conquérir. Donc, elle conclut, il n'y avait pas vraiment de ville quand Jésus est arrivé. Alors, ces déclarations ont eu un impact majeur sur le monde scientifique. Beaucoup de personnes ont salué ces résultats comme preuve que la Bible était historiquement peu fiable, qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à la Bible. Et la seule conclusion logique pour eux est que le récit était des récits fabriqués et mythiques écrits plus tard dans l'histoire d'Israël. Et les milieux académiques et archéologiques ont bien sûr accepté les conclusions de Madame Kenyon. Mais l'histoire continue. Kathleen Kenyon est décédée en 1978. Cependant, les rapports détaillés sur ses conclusions de Jéricho n'ont pas été publiés jusqu'en 1981 à 83. Plusieurs années, un nouvel archéologue qui s'appelle Bryant Wood, professeur invité de l'Université de Toronto, examine les conclusions de Kathleen Kenyon et il est surpris par ce qu'il trouve, et je le cite. « L'analyse de Kenyon avait été fondée sur ce qui n'a pas été trouvé à Jéricho, plutôt sur ce qui a été trouvé. » Deux manières différentes de lire ce qu'ils ont trouvé. Wood réalisa que Kathleen Kenyon avait fondé ses conclusions sur le fait qu'elle n'avait pas trouvé un type particulier de céramique importée provenant d'autres sites du Proche-Orient qui aurait prouvé que, selon elle, Jéricho était inoccupé à l'époque de Josué. Mais le vrai problème, Monsieur Wood a vu, c'est qu'elle avait creusé dans un quartier pauvre de la ville, là où les habitants ne pouvaient avoir eu les moyens d'acheter et d'utiliser ces poteries importées plus chères. Plus surprenant encore, il a découvert que Kathleen Kenyon avait découvert de la poterie de l'époque, mais l'avait de manière inexplicable tout simplement ignorée. Et dernièrement, il avait aussi négligé le fait que son prédécesseur John Garstang avait trouvé de la poterie peinte à l'époque de la conquête et d'autres objets prouvant qu'il n'y avait jamais eu de trou d'occupation de la ville comme l'avait conclu Kathleen Kenyon. Alors je vous dis tous ces détails pour vous montrer le débat archéologique. Comment ça se passe dans ces milieux? Quelle est la conclusion réelle aujourd'hui? C'est intéressant. Kenyon, Garstang et Wood et d'autres excavateurs encore ont trouvé quoi? Ils ont trouvé exactement ce qui correspond au récit biblique en fait. Ils ont trouvé les murs effondrés, pas des murs qui ont été poussés vers l'intérieur avec un bélier, comme ça aurait été logique pour une armée qui vient prendre une ville, mais ils ont trouvé des murs écroulés vers le bas et vers l'extérieur, qui correspond avec Josué 6:20, puisque Dieu a fait tomber les murailles. Et c'est intéressant parce que le texte nous dit que Dieu a fait tomber les murailles et que ces murailles effondrées sont devenues une rampe d'accès dans la ville. C'est ce que nous dit Josué 6. Et c'est exactement ce qu'ils ont trouvé, parce qu'ils montèrent dans la ville chacun devant lui. Ils ont aussi trouvé les grands magasins de grains carbonisés dans les ruines. Cela a montré que la ville avait subi un court siège, 7 jours selon la Bible. Si ça avait été un long siège, ils auraient tout mangé. Mais un court siège, ben ils n'ont pas tout mangé. Donc il y avait encore du grain qui restait dans ces ruines. Et apparemment, le grain avait été récemment récolté. Josué 3,15 suggère que c'était pendant la période de la récolte. Donc ça colle avec le texte. Aussi du fait que le grain était un bien précieux, presque toujours pillé par la force qui envahissait, comment expliquer la grande quantité de grains laissés dans les ruines ? Cela, de nouveau, correspond au commandement de Dieu qui avait ordonné que rien dans la ville ne serait pris, excepté les métaux précieux. Et donc, ils ont laissé le grain. C'est exactement ce qu'ils ont trouvé. C'est quand même marrant. Et même Kenyon reconnaît qu'ils ont trouvé une ville brûlée. Exactement comment le décrit la Bible. Et je cite Kathleen Kenyon qui dit « La destruction était complète. Les murs et les planchers ont été noircis et rougis par le feu et chaque chambre était remplie de briques tombées avec les poutres et les ustensiles de ménage. Dans la plupart des chambres, l'éboulis était gravement brûlé et l'effondrement des murs dans les salles de l'Est semble avoir eu lieu avant qu'ils ne soient touchés par le feu. » Exactement ce que dit le récit biblique. Je vous montre encore quelques photos peut-être. Donc ça, c'est une des tranchées qu'ils ont découpées pour regarder dans l'autel de Jéricho ensuite. Et ça, le poil est visité. Alors voilà l'autel. Alors, ce qu'il nous faut, mes amis, c'est des archéologues. Si peut-être il y a des jeunes qui se disent « j'aimerais faire un boulot vraiment intéressant », il faut des archéologues pour aller archéologiser tout ça encore. D'accord ? Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Prochaine photo. Oh, bon, alors ça, on va trop vite là, d'accord ? Alors voilà pour un exemple qui est l'exemple de Jéricho. J'aimerais vous montrer un autre exemple, d'accord ? C'est le deuxième exemple archéologique, celui des Hétiens et des Hittites. C'est vraiment intéressant. Car il y a quelques années de cela, j'étais à Berlin où je donnais une conférence, et je suis allé visiter le célèbre musée de Pergamon. Le musée est fascinant, et justement il est connu, tant tu peux arrêter là, l'autre avant, voilà. Il est connu, d'entre autres, pour cette porte. C'est la porte d'Ishtar qui existait à Babylone à l'époque de Nebuchadnezzar. Tout ça, c'était dans la Bible, d'accord ? Alors déjà, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé absolument génial. Et là, c'est des archéologues allemands qui ont trouvé les briques, toutes l'une sur les autres en Irak, et les ont toutes rapportées à Berlin. Ils ont pris, je crois, 8 ou 9 ans pour essayer de trouver comment on embriquait ces briques. Et là, ils ont reconstitué parfaitement, avec les briques d'origine, la porte d'Ishtar. Mais ce n'est même pas ça qui m'a ébloui le plus. Non. Au-delà de cela, il y a une salle qui s'appelle la salle des Hittites. Et ça m'a impressionné parce que pendant mes études théologiques, j'avais entendu dire que justement les libéraux avaient pendant des siècles accusé la Bible d'être erronée sur la base qu'elle décrivait l'existence d'un peuple appelé les Hétiens ou les Hittites, qui, selon l'histoire, n'existait vraiment pas. Alors, dans 2 Rois 7, 6, il est dit ceci. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël pris à sa solde contre nous, le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et même Scofield, et probablement dans vos Bibles, il y a des notes qui disent que pendant les siècles, alors les libéraux, ils disaient, « Ah, alors là, c'est preuve que la Bible est erronée, parce que ce peuple n'a jamais existé, on n'a jamais rien trouvé, jamais rien trouvé, pour prouver l'existence d'un peuple qui s'appelle Hétien ou Hittite. » Donc, conclusion, la Bible est en erreur. Et puis, ta-da-da-da, vive les archéologues. Ah, devenez archéologue, ce serait super. Je vais vous visiter, d'accord ? Au XIXe siècle, une découverte archéologique ferme la bouche des critiques par rapport aux Hétiens. Les tablettes égyptiennes de Tel El Amarna, excusez mon arabe, ont été découvertes. Et ces tablettes donnent à ce peuple le nom Keta ou Hatti. Peut-être tu peux passer Voilà, donc ça, c'est l'Empire hittite. D'accord ? C'était une partie de la Turquie aujourd'hui. Prochaine. Ça, c'est l'écriture hittite. Et ça, c'est un relief hittite. D'accord ? Je crois qu'il y a encore un truc hittite. Et puis ça, c'est une ville hittite. D'accord ? Alors, ce qui est quand même marrant, c'est qu'une fois qu'ils ont découvert ces tablettes qui décrit ce peuple, des expéditions organisées pendant les 12 premières années du XXe siècle ont prouvé que la cité de Gbozavkov, c'est celle-là, d'accord, Bogazgoy, en Asie mineure, donc à l'est d'Ankara en Turquie, était bel et bien la capitale de l'Empire hittite qui existait entre 2000 à 1200 avant Jésus-Christ environ. Et si vous ne croyez pas, allez voir l'article sur Wikipédia. Il y a un long article sur l'Hittite. C'est vraiment génial. Alors écoutez, je suis rentré dans cette salle, dans le musée, à Pergamum, à Berlin, et là j'ai vu tout autour de moi, c'est une salle dédiée aux Hittites, et là j'ai commencé à bénir le Seigneur dans le musée. Les gens, ils pensaient que j'étais un malade, quoi. Mais ils se disaient, bon, j'étais pas en train de chanter, mais presque. Mais je bénissais le Seigneur parce que je me dis, putain, mais c'est génial l'archéologie. Parce que ça prouve, la Bible est toujours avec chaque pelle de terre qui est archéologiquement pelée, la Bible est prouvée vraie et juste et fiable. Et ça, c'est que deux exemples. Il y a des revues dédiées à l'archéologie biblique. Je ne sais pas si encore une photo hittite. Non, d'accord. Okay. Alors voilà pour l'archéologie. OK ? Maintenant, on passe au dixième point, la dixième preuve. La dixième preuve de l'inspiration de la Bible, là, il faut vraiment vous tenir, c'est l'exactitude prophétique de la Bible. Là, il faut se tenir, d'accord ? Ça, nous passons à un chapitre que j'espère va vraiment vous stupéfier aujourd'hui. Pour moi, c'est peut-être le plus convaincant de tous. Wilmington, un commentateur, a dit ceci. L'un des tests les plus exigeants auxquels on peut soumettre une religion, c'est sa capacité de prédire l'avenir. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, la Bible est sans pareil. En effet, l'une des indications les plus claires comme quoi la Bible est de source divine est la prophétie. Les hommes, du passé ou actuel, ont toujours cherché à connaître leur avenir. Hein, c'est vrai, les hommes ont toujours eu des devins, des astrologues, des augures, pour prononcer ce qui allait arriver. Mais moi quand j'étais un hippie à l'époque, avant de connaître Jésus-Christ, j'étais en Inde, on m'a lu la paume. Hein, un devin m'a lu ma paume pour me prédire mon avenir. Mais ils font ça partout dans le monde. Les gens veulent savoir leur avenir. Mais vous savez, il n'y a aucune comparaison avec les prophéties époustouflantes qui se trouvent dans les Écritures. Dans la Bible, Dieu a prédit des événements dans l'histoire qui sont tellement précis qu'il est impossible de conclure qu'ils ont été inventés par l'esprit humain. Alors il faut bien comprendre qu'une prophétie, proprement dit, n'est pas de la chance. Ce n'est pas simplement essayer de deviner l'avenir, non. La prophétie biblique, c'est quoi ? C'est la révélation détaillée et juste d'événements pour l'avenir que seul Dieu connaît du fait qu'il est omniscient. Dieu nous a créés, il connaît notre passé, notre avenir, il connaît tout. Il a déjà décrit dans la parole de Dieu la fin du monde. Et donc il connaît tout, il connaît le début et la fin, il connaît tous les événements qui vont se passer entre. Donc il nous révèle parfois à l'avance certains de ces événements tout à fait époustouflants. Alors, la Bible contient, tenez-vous bien, environ 2500 prophéties en tout. Environ 2000 de ces prophéties ont déjà été accomplies, à la lettre. Les 500 prophéties environ qui restent parlent de l'avenir, et on va voir ces 500 prophéties s'accomplir. Peut-être si on a, ou peut-être plus tard, on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. Puisque la probabilité mathématique qu'une de ces prophéties s'accomplisse par chance est environ 1 sur 10, c'est un calcul très conservateur, la probabilité que toutes les prophéties s'accomplissent est 10 au pouvoir 2000. C'est-à-dire un avec 2000 zéros derrière. Bon, c'est quand même un chiffre très important. On y reviendra. Alors, avant de regarder à certaines prophéties, il faut comprendre quelles étaient les exigences pour être prophète. C'est important de le savoir. Les exigences pour être prophète dans l'Ancien Testament. Allez avec moi à Deutéronome 18. Regardez. C'est pas long, mais c'est hyper clair. Les exigences pour être prophète. Le prophète, c'est celui qui parlait de la part de Dieu, qui parfois parlait de l'avenir, et donc il devait être précis par rapport à ce qu'il allait dire. S'il parlait de la part de Dieu, un événement qui allait venir, bah, il fallait qu'il soit juste. Alors regardez ce qu'il dit. Deutéronome 18, à partir du verset 20. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de quoi ? De mort. » Wow. « Peut-être diras-tu dans ton cœur, mais comment connaîtront la parole de l'Éternel qui n'aura point dite ? » Mais comment savoir si c'est vrai ou pas vrai ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrive pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors soyons très clairs. La Bible dit quoi ? Si tu fais une prophétie au nom de Dieu, elle doit s'accomplir. Point à la ligne. Si elle ne s'accomplit pas, punie de mort. Est-ce que c'est clair ? C'est incroyable, vous ne trouvez pas ? Moi, ce que j'aime avec la Bible, c'est noir et blanc. C'est vraiment tranché, quoi, d'accord ? Là, c'est vraiment tranché. Pour être prophète, il fallait avoir une exactitude absolu. Seule la Bible dresse une telle exigence vis-à-vis de ses prophètes. Petite parenthèse personnelle. Il y a pas mal de groupes chrétiens aujourd'hui qui se disent avoir et recevoir des révélations de Dieu, des prophéties de Dieu. Moi, je dis OK. Enfin, je vais finir ma phrase. Peut-on appliquer alors à vous les mêmes exigences que les prophètes de l'Ancien Testament? Une erreur, on vous lapide. Moi, je suis sûr que si dans nos églises aujourd'hui, on appliquait ces mêmes exigences, il y aurait beaucoup moins de soi-disant prophètes dans l'église. Les exigences de Dieu étaient claires et nettes. Donc, si une prophétie est erronée ou fausse, eh bien, nous pouvons conclure que la Bible est dans l'erreur. Alors, j'aimerais vous montrer deux prophéties. C'est tout. On n'a pas le temps, hein. Il y en a 2500. D'accord. Bon, on va déjà commencer avec deux. Allez avec moi à Ézéchiel. On va donner une prophétie historique et puis l'autre que vous connaissez beaucoup mieux. Mais celle-ci, elle est vraiment bien parce que je pense qu'elle montre très clairement l'exactitude que nous cherchons, et que nous voulons, et que Dieu cherche, en fait, pas nous, mais que Dieu exige dans la parole de Dieu, d'accord ? Alors, je vais vous lire ce texte. C'est une prophétie sur Tyr. Tyr, c'est une ville, d'accord, qui existe aujourd'hui, enfin, la ville moderne existe aujourd'hui, au Liban, d'accord ? Sur la côte. On va lire Ézéchiel 26 à partir du verset 1. Je vous lis la prophétie, puis ensuite, je vous donne un petit peu la situation, vous voyez, c'est vraiment superbe. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc Ézéchiel dit qu'il reçoit maintenant une prophétie de la part de Dieu. Donc il ferait mieux d'être juste. D'accord ? Ça commence bien. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, « Ah ! Elle a brisé la porte des peuples. On se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Tyr. » Donc Dieu va maintenant punir Tyr. Je ferai au futur, c'est une prophétie, je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter des flots. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, elle sera la proie des nations. Ses filles sont sur territoire, seront tuées par l'épée. Elles sauront que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'amène du septentrion contre Tyr. Waouh ! Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc ça devient extrêmement précis. Le roi des rois avec des chevaux, des chars, des cavaliers, une grande multitude de peuples. Il tuera par l'épée tes filles sur son territoire, sur ton territoire. Il fera contre toi des retranchements. Il élèvera contre toi des terrasses. Il dressera contre toi des boucliers. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de tes chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée et les monuments de ton orgueil tomberont sur toi. On enlèvera tes richesses, on pillera ta marchandise, on abattra tes murs. Écoutez bien, on abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu des eaux des pierres, tes pierres, ton bois et ta poussière. Donc tout sera jeté dans l'eau. Je ferai cesser le bruit de tes chants et on n'entendra plus le son des harpes. Je ferai de toi un rocher nu. Tu seras un lieu où on étendra les filets. Tu ne seras plus rebâti. Car c'est moi l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur éternel. Et le verset 21, je te réduirai à rien et tu ne seras plus et on te cherchera et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel. Alors là, c'est précis. Regardons à l'histoire. Écoutez, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir vis-à-vis de Tyr, c'est que Tyr n'était pas un petit village de pêche. C'était une des grandes villes de la Phénicie autrefois. La ville fut fondée en 2750 avant Jésus-Christ, selon Hérodote. Ézéchiel en parle 600 ans avant Jésus-Christ. Et les Phéniciens étaient des colonisateurs et des marins. Ils naviguaient autour de l'Afrique. Et ils établissaient des routes de commerce à l'Est et en Asie. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Les Phéniciens se sont donc construits une ville magnifique avec des fortifications massives, des murs de 45 mètres de haut et 5 mètres de large. Les murs protégeaient la ville du côté de la terre et des navires de guerre protégeaient la ville côté mer. Les rois David et Salomon ont tourné leur regard vers Tyr pour les matériaux et pour les artisans qui allaient construire leur grand projet de construction, vous rappelez. Les cèdres du Liban passaient par cette région pour arriver en Israël. Cette ville était importante historiquement. 3 années après qu'Ézéchiel avait fait sa prophétie contre Tyr, Nebuchadnezzar, figurez-vous, est descendu du nord et a fait exactement ce qui est prophétisé. Il a organisé un siège autour de la ville et a construit une sorte de montagne de terre autour du mur. Les tactiques militaires à l'époque coupaient les villes assiégées de tout trafic, tout commerce, toute provision, toute nourriture. Leur but était d'affamer l'ennemi. Nebuchadnezzar a assiégé Tyr pendant 13 ans. Et à la fin de ces 13 ans, il attaqua la ville et détruit les murs. Il a aussi détruit les tours exactement comme Ézéchiel avait prophétisé. La destruction de toutes les tours d'une ville n'était pas habituelle à la fin d'un siège, mais dans ce cas précis, c'est exactement ce qui était fait. Ouais, on détruisait pas les murs, on prenait la ville. Mais ici, ils ont détruit les murs. Lorsque Nebuchadnezzar a finalement pénétré l'intérieur de la ville, il était surpris de ne trouver aucun butin. Pourquoi pas ? Eh bien, parce que les habitants ont eu une sacrée idée. Ils avaient ôté ce qu'ils avaient de valeur et avaient tout déplacé sur une petite île qui se trouvait à 1 kilomètre du rivage, sur les côtes. Et là, ils ont construit un mur tout autour de l'île et ils étaient en sécurité. Et de là, ils se moquaient de Nebuchadnezzar, se moquaient des Babyloniens Et pendant 250 ans, cette petite ville de Tyr sur cette île a fleuri. Et personne n'a pu les prendre. Problème, seule une partie de la prophétie d'Ézéchiel avait été accomplie. Oui, la ville côte avait été détruite, les murs détruits, mais qu'en est-il des pierres et des arbres et de la poussière qui devaient être jetées dans l'eau ? Ça n'avait pas encore eu lieu. Ben, il y a un nouveau jeune homme qui rentre dans l'histoire, qui s'appelle Alexandre le Grand. Lui, il arrive sur la scène, bien des années plus tard. Lui, il avait déjà vaincu les Perses, le deuxième empire mondial à l'époque que Daniel avait prophétisé. Alexandre le Grand n'avait qu'une ambition, conquérir le monde. Il est arrivé au territoire phénicien avec une infanterie de 33 000 hommes de terre, une cavalerie de 15 000 hommes et quelques navires pour naviguer les côtes. Il a demandé à la ville de Tyr, sur l'île donc, de lui ouvrir ses portes. Il a dit « Laissez-moi rentrer dans votre ville ». Ils ont dit « Bien sûr que non, nous on est en sécurité sur notre île ». Depuis, ils avaient donc ces grandes fortifications, ce mur. Ha ha, Alexandre le Grand, nous on est protégés. Alors Alexandre le Grand n'aimait pas être arrêté comme ça. Il a décidé qu'il allait trouver un moyen pour prendre cette ville. Comment faire ? Il n'y avait qu'une manière de le faire. Il devait construire une sorte de péninsule, un pont. Pas un pont, mais un pont sous mer, n'est-ce pas ? Une sorte de, c'est comme une péninsule, hein ? Une digue, voilà, merci. Il voulait construire une digue de terre ferme depuis la côte jusqu'à l'île. Alors, il a commencé à construire cette digue de 60 mètres de large et une distance d'environ 1 kilomètre. Alors, la tâche a été extrêmement difficile. Quel matériau allait-il utiliser ? Il a une idée. Les ruines de l'ancienne ville de Tyr. Donc, il a pris toutes les pierres, toutes les briques, toutes les tours, tout ce qu'il a trouvé dans cette ancienne ville, et il a tout. Donc tout ça avait été détruit 250 ans avant par Nebuchadnezzar, et il s'est là tout jeté dans l'eau, dans la mer. Et bien sûr, au fur et à mesure que cette digue avançait, et bien la profondeur de la mer descendait, augmentait, et donc à un moment donné, le projet semblait compromis. Alors, pour compliquer la tâche, les Tyriens se perchaient sur leurs grands murs et bombardaient les Grecs avec des missiles. Pour protéger ses ouvriers, Alexandre construit des boucliers géants mobiles. Et les ouvriers et les soldats travaillaient en dessous de ces grands boucliers et continuaient d'avancer vers l'île. Mais un autre problème les attendait une fois arrivés aux murs de la ville, les murs eux-mêmes. Comment allait-il surmonter ces murs ? Eh bien, pour le faire, Alexandre le Grand a construit ce qu'on appelle des hélépolis. C'était des tours sur roues qui mesuraient 40 mètres de haut et qui étaient donc déplaçables. L'idée était de rouler ces monstres sur la piste qui avait été construite et une fois devant les murs, laisser tomber des grands ponts-levis et ainsi permettre aux soldats de pénétrer la ville par le haut de la muraille. Et ce qui est étonnant, c'est que cette histoire est parfaitement historique. Alexandre le Grand, en construisant ses trempes ou ses digues, était en train d'accomplir une prophétie biblique sans même le savoir. Car la prophétie a prophétisé que Tyr devait s'accomplir tel quel. Mais alors, il y a une dernière partie de la prophétie qui n'était pas encore réalisée. Il est dit que beaucoup de nations viendraient contre Tyr. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que beaucoup de nations étaient venues contre Tyr ? Non, pas encore. Mais lorsqu'Alexandre le Grand construisait la rampe, la digue, il était en train d'être attaqué par les navires de Tyr des deux côtés. Et Alexandre a très vite réalisé qu'il avait besoin de plus de navires pour protéger ses deux flancs. Il retourna aux villes et aux nations qu'il avait déjà conquises et leur a demandé de pourvoir des navires pour l'aider à le protéger des Tyriens. Des navires venant de Sidon, Byblos, Rhodos, Macédoine et d'autres lieux encore vinrent et comme Ézéchiel avait prophétisé, beaucoup de nations se sont dressées contre Tyr. Enfin, la rampe d'Alexandre fut terminée. Les Héliopolis furent poussés contre le mur de Tyr. Les ponts-levis furent ouverts et les soldats grecs se sont emparés de la ville. Et dans la bataille qui a suivi, 18 000 habitants de Tyr furent massacrés. 7 000 autres furent exécutés. 30 000 autres furent vendus en tant qu'esclaves. La ville fut complètement détruite et rasée. La victoire impossible fut acquise en moins de 7 mois. Et la prophétie d'Ézéchiel venait d'être totalement accomplie jusqu'au plus petit détail. Mais il y a encore une phrase, que la ville ne serait plus jamais reconstruite. Philip Myers, un historien, dit ceci. Alexandre le Grand a réduit Tyr en un tas de ruines en 332 avant Jésus-Christ. Certes, un petit bourg y existe, mais jamais une place qu'il avait à l'époque dans le monde. Il y a une différence entre un village et un bourg et une ville mondialement connue. Myers continue et dit que cette ville, une fois une grande ville, est maintenant aussi nue que le dessus d'une pierre. Et c'est intéressant que l'ancienne ville, cette île de Tyr, est aujourd'hui l'endroit où les pêcheurs sèchent leurs filets. Jérusalem a été reconstruite 17 fois, mais Tyr n'a jamais été reconstruite, l'ancien site. Pourquoi pas ? Eh bien, parce qu'il y a 2500 ans de cela, un juif en Babylonie a prophétisé qu'elle ne serait jamais reconstruite. J'aimerais vous montrer des photos. Regardez, c'est incroyable. Ça, c'est Tyr aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la côte avec ce côté qui ressort. Maintenant, on va aller à la prochaine photo. Non, il n'y a pas une photo avec un cercle. Ah non. Il n'y a pas une prochaine, là ? J'ai oublié de mettre. Bon. Mais écoutez, va à la prochaine photo. Ce côté qui ressort de la côte est en fait l'île. L'île, voilà, c'est ça que je cherchais. Ça, c'était l'île d'origine. Il y avait entre la côte et l'île aucune terre. Et c'est cette digue que Alexandre a construite. Prochaine photo. Non, pas celle-là. Il n'y a plus de photo ? Voilà, écoutez, voilà, là on va très bien. Là, on voit Tyr 332 avant Jésus-Christ, c'était l'île, et on voit aujourd'hui, parce qu'une fois que la digue a été construite, eh bien, avec le sédiment, avec le sable et tout ça, maintenant, il y a de la terre ferme. Ce qui est intéressant, c'est que l'ancienne ville, donc l'île, n'a jamais été reconstruite jusqu'à ce jour. On va regarder encore d'autres photos. Alors ça, on voit la digue qui est en train d'être fabriquée par Alexandre le Grand, et là, on a la vue depuis la ville de Tyr, et on regarde la jetée arriver vers nous. Là, on voit l'île à gauche et la côte à droite avec le pont, enfin, disons, cette digue qu'Alexandre a construit. C'est tout. Et donc, ça vous montre que, historiquement, vous pouvez aller sur Google Earth, ce que j'ai fait, vous pouvez aller voir Tyr aujourd'hui, c'est vraiment intéressant, parce que cette prophétie a été réalisée vraiment à la lettre. Et ça, c'est un exemple de multiples exemples prophétiques. Écoutez, on a encore un petit peu de temps devant nous, donc j'aimerais vous montrer une dernière prophétie, d'accord ? Et là, vous êtes beaucoup plus, je pense, vous la connaissez bien plus, c'est la prophétie du Messie à venir. La prophétie, les prophéties concernant Jésus-Christ. Regardez avec moi Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Là, tu peux éteindre si tu veux, c'est gentil. Merci Roxana. Jésus dit ceci dans Matthieu 5, 17. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Intéressant. Jésus dit « Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. » La loi, pour que sa vie soit conforme à la loi, les prophètes, par rapport aux prophéties des prophètes. Il est venu accomplir toutes les prophéties des prophètes vis-à-vis du Messie à venir. Il y a beaucoup de textes qui parlent de ça, par exemple Jean 5, 39. Jésus dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il parlait bien sûr des Écritures de l'Ancien Testament. Il dit, « Lisez l'Ancien Testament, vous verrez que l'Ancien Testament parle de moi. » Ou c'est vrai ou c'est gonflé, vous n'êtes pas d'accord. Il dit, « Je suis la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament par rapport au Messie. » Dans Luc 24, 44, il dit encore ceci, il leur dit, « C'est là que je vous ai dit lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Il dit, « Je suis venu accomplir tout ce que l'Ancien Testament a décrit par rapport au Messie qui devait venir. Ah, écoutez, franchement, entre vous et moi, c'est une des revendications les plus extraordinaires qui soit. Pourquoi ? Parce que Jésus prétend purement et simplement qu'il est lui-même l'accomplissement de toutes les prophéties dans l'Ancien Testament par rapport au Messie. Alors écoutez, vous savez, moi je suis assez simple, je me dis, ben alors, mais c'est quand même incroyable. Ou c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que deux. Ou c'est vrai ou c'est faux. Et il n'y a rien de plus simple à vérifier. Comment on fait pour vérifier ? Ben c'est simple. Il faut lister une liste de toutes les prophéties concernant le Messie, d'un côté. Ensuite, vous mettez une liste de Jésus, enfin, je ne sais pas si on le dit comme ça, et vous regardez si Jésus les accomplit. C'est oui ou c'est non ? Est-ce que la liste correspond ou pas ? S'il y a une erreur, c'est faux. On balaye. C'est pas juste. C'est un imposteur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des prophéties datent d'entre 400 et 800 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a quand même un lapsus de temps entre 400 ans et 800 ans entre la prophétie et l'accomplissement de la prophétie. Donc, c'est pas rien, quoi. Alors, l'Ancien Testament contient plus de 300 prophéties sur la venue du Messie. 300. Bien entendu, il serait impossible, dans les minutes que nous avons, de regarder chacune de ces prophéties. Alors, j'en ai choisi que 30. 10%. D'accord ? Et sur celle-là, on va en regarder que quelques-unes. D'accord ? Mais je vais vous donner les 30 et je vais en regarder quelques versets juste pour vous montrer qu'on se réfère bien à la parole de Dieu. Alors, premièrement, hein, une première prophétie, c'est qui... c'est déjà la grosse, d'accord ? Le prophète serait né d'une vierge. Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il faut déjà le faire. De Samuel 7, on lui donnera le trône de David. Il serait rejeté par les siens. Ésaïe 53, 3. Il serait précédé par un messager. Ésaïe 4, 3 et 4. Il serait, tenez-vous bien, né à Bethléem. Michée 5, 1, et toi Bethléem, Ephratas, petite entre des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Même les Juifs reconnaissaient ceci comme une prophétie sur le Messie. Bethléem, il devait y naître. Il serait visité par des mages et présenté des cadeaux. Ésaïe 63, il irait en Égypte pour un temps. Ésaïe 11. Son lieu de naissance, il souffrirait le massacre d'enfants, Jérémie 31, 15. Il serait une lumière aux nations pour Israël, Ésaïe 42, 1, 3. Il guérirait beaucoup de malades, Ésaïe 53, 4. Il parlerait en parabole, Ésaïe 6, 9. Il ferait une entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, le petit d'une ânesse, Zacharie 9, 9, nous dit ceci. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux et humble, il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il serait adoré par les petits-enfants, psaume 8, il serait rejeté, le psaume 118, et ses miracles ne seraient pas crus, Ésaïe 53. Il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11. Que l'argent avec lequel il serait trahi serait utilisé pour acheter un champ appelé le potier, Zacharie 11. Qu'il serait un homme de douleur et de souffrance, Ésaïe 53. Qu'il serait abandonné par ses disciples, Zacharie 13. Qu'il serait frappé et qu'on lui cracherait dessus, Ésaïe 50. Qu'il serait crucifié entre deux malfaiteurs, Ésaïe 53. Qu'on lui donnerait du vinaigre à boire, psaume 69, qu'il serait crucifié avec les mains et les pieds percés. Psaume 22, versets 15 à 17. Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. C'est encore une prophétie. Et ils tirent au sort ma tunique. Encore une prophétie. Donc il y en a trois dans un verset, d'accord ? Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque du psaume 22, la crucifixion n'existait même pas comme un supplice. qu'on partagerait ses vêtements, je viens de le lire, qu'il serait encerclé, ridiculisé par ses ennemis, psaume 22, qu'il aurait soif, psaume 22, qu'il remettrait son esprit entre les mains du Père, psaume 31, que ses os ne seraient pas brisés, psaume 34, qu'il serait enterré avec des riches, Ésaïe 59, et qu'il serait ressuscité des morts, psaume 16. Ça, c'est 30 prophéties sur les 300. Ça a été vite. Alors, il n'y a que deux arguments possibles contre ces prophéties. Écoutez. Jésus a lu toutes ces prophéties et il voulait se faire passer pour le Messie. Donc, il a pris toutes les prophéties qui concernent le Messie à venir, il a fait une liste et il se les a appliquées à lui-même. Alors, ça, c'est un super argument si vous voulez réfléchir. D'accord ? Parce que là, c'est vraiment compliqué. Alors, pour certains, on pourrait dire, ok, ce serait peut-être possible. Mais pour d'autres, écoutez, c'est absolument impossible. Déjà, comment est-ce qu'on fait pour prédire son lieu de naissance ? Pas évident. Comment faire pour prédire l'époque de sa naissance ? Et comment surtout planifier le fait qu'on serait né d'une vierge ? Là, il faut le faire. Comment prévoir le fait que les enfants seraient massacrés dans sa ville natale au moment de sa naissance? Comment prévoir sa manière de mourir par crucifixion? Comment prévoir la réaction des gens face à sa propre mort? Comment prévoir les détails de son propre enterrement après sa mort? Comment prévoir sa propre résurrection physique? Écoutez, si vous faites la liste et vous regardez et vous comparez, il n'y a qu'une conclusion. Il est impossible que Jésus accomplisse ses prophéties sans qu'il soit lui-même Dieu. Pas possible. Bon, alors, il y a un autre argument. Vous dites, ouais, d'accord, ok, celui-là, il n'est pas très bien, mais j'en ai un autre. C'est un coup de chance. Coup de chance. Non, écoutez, le fait que Jésus accomplit toutes ces prophéties, c'est un coup de chance incroyable. Alors déjà, il faut vraiment un très grand coup de chance pour être né d'une vierge. Donc déjà, là, l'argument, il tombe quand même à l'eau. D'accord ? Mais regardons maintenant la probabilité. La probabilité d'un coup de chance. Josh McDowell, dans son livre « L'évidence that demands a verdict », explique la probabilité mathématique que toutes ces prophéties s'accomplissent en un homme. C'est un peu technique, mais suivez, c'est intéressant, d'accord ? Qu'un homme accomplisse une ou deux prophéties, d'accord, ça peut arriver. Mais 300 ? Que dire ? Peut-être que de 60 ou 30 ? McDowell fait référence à Peter Stoner qui, dans son livre « La science parle », publié par l'Institut Moody, montre que l'argument de la coïncidence est rendue caduque par la science et la probabilité. En premier lieu, Stoner applique la science moderne à la probabilité pour calculer la probabilité qu'elle s'accomplisse sur 8 prophéties. Donc il a pris 8 prophéties et a calculé la probabilité qu'un homme accomplisse 8 des prophéties. Et il liste les prophéties qu'il a choisies. Stoner dit de ceci. Nous trouvons que la chance qu'un homme vive et accomplisse ses 8 prophéties, bon, je vous donne celles qu'il a choisies parce qu'elles sont intéressantes. Lieu de naissance, qu'il entrerait à Jérusalem sur un âne, qu'il serait trahi par un ami, qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent, que cet argent serait jeté dans la maison de Dieu, qu'il resterait silencieux devant ceux qui l'accusaient, et qu'il serait crucifié avec des malfaiteurs, et qu'il aurait les mains et pieds percés. Donc il a calculé la probabilité qu'un homme ait déjà ses 8 prophéties qui se collent à lui. Stoner dit, et je cite, « Nous trouvons que la chance qu'un homme vive et accomplisse ses 8 prophéties est une chance sur 10 à la puissance 17, qui représente une chance sur... » Écoute, je crois que j'ai même mis une photo. C'est plus simple parce que j'arrive même pas... Voilà. Alors, j'arrivais pas à mettre le petit 17 en haut, mais il devrait aller en haut. Une chance sur 10 au pouvoir 17, c'est une chance sur ce grand chiffre, avec 17 zéros derrière. Donc, ça, c'est pour 8 prophéties. Stoner nous aide à comprendre ce chiffre. Afin de nous permettre de comprendre ce chiffre presque incompréhensible, et là je prends l'équivalent européen, prenez le pays de la France, la Suisse, la Belgique et la Hollande pour un total d'environ 700 000 km². Maintenant, couvrez ces 4 pays de 10 à la puissance 17 de pièces d'un franc. Ces pièces d'un franc couvriraient la France, la Suisse, la Belgique et la Hollande de pièces d'un franc d'une profondeur d'un mètre. Maintenant, prenez une autre pièce d'un franc et faites une croix rouge dessus. Maintenant, jetez cette pièce marquée d'une croix rouge dans le tas n'importe où, Ensuite, brassez tout très très bien, d'accord? Prenez maintenant un homme, mettez-lui un bandeau sur les yeux et dites-lui qu'il peut voyager aussi loin qu'il veut et qu'il a, à un moment donné, choisir une pièce. Ça, c'est la probabilité que 8 prophéties s'accomplissent en Jésus, les 8 prophéties que nous venons de voir. Mais ensuite, Stoner va encore plus loin dans son livre. Il calcule la probabilité que 48 prophéties s'accomplissent en un homme. Pas 8, mais 48. Nous trouvons que la chance qu'un homme accomplisse 48 prophéties est une chance sur 10 au pouvoir 157. Alors Stoner dit ceci. Ça, je trouve ça assez marrant. Alors là, nous avons réellement un grand chiffre qui représente une très petite chance d'accomplissement. Essayons de visualiser la probabilité. Mais pour le faire, la pièce d'un franc est un objet beaucoup trop grand. Nous devons choisir un objet bien plus petit. L'électron est un des objets les plus petits que nous connaissions, que nous connaissons. En fait, l'électron est tellement petit que cela va prendre 2,5 fois 10 à la puissance 15 de ces électrons placés l'un à côté de l'autre dans une file pour arriver à la longueur d'environ 2 cm. Si nous voulions compter les électrons dans cette file de 2 cm au nombre de 250 par minute, si nous comptions jour et nuit, cela nous prendrait 19 millions d'années pour les compter tous. Et ça pour compter qu'une ligne d'électrons de 2 cm de long. Maintenant, si nous avions 2 cm cubes d'électrons à compter, en comptant 250 électrons par minute jour et nuit, cela nous prendrait 19 millions fois 19 millions fois 19 millions d'années, ou bien 6,9 fois 10 au pouvoir 21 d'années. Avec ceci dit, retournons la chance 1 sur 10 à la puissance 157 pour qu'un homme accomplisse 48 prophéties. Prenez le cube d'électrons, prenez un des électrons et faites une croix rouge dessus. Jetez cet électron dans la masse d'électrons, brassez le tout très bien, mettez un bandon sur un homme, dites-lui qu'il a une chance de trouver le bon électron. Voilà la chance qu'un homme accomplisse 48 prophéties. Ça, c'est la probabilité. Et mes amis, ça, c'est la probabilité pour 48. Jésus en a accompli plus de 300. En fait, un érudit de la Bible a calculé qu'il y avait 333 prophéties précises concernant le Messie. Selon lui, la probabilité d'accomplir toutes ces prophéties par un homme, par chance, sont évaluées à 1 sur 83 milliards. Je n'ai pas le temps de le lire, mais j'ai trouvé une étude. Ils ont calculé la probabilité qu'un singe tape sur un ordinateur le psaume 23 correctement. Conclusion. Pour taper correctement le psaume 23, qui contient 603 lettres, 50 à la puissance 603, divisé par 31 536 million qui est 9552 fois 10 parce qu'il a compté les secondes par jour, à la puissance, écoutez, c'est tellement énorme. C'est 1 à la puissance 122 milliards, je crois, si j'ai bien compris l'article. Ça, c'est juste pour le psaume 23. Mes amis, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? On termine avec 2 Timothée 3, 16, d'accord? Paul écrit, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Mes amis, nous tenons dans nos mains la parole inspirée de Dieu. Et dimanche prochain, on conclut notre série. J'espère que vous allez pouvoir venir pour la conclusion. Seigneur, vraiment, merci de tout cœur. Merci pour tout ce que nous avons encore vu aujourd'hui, Seigneur. C'est vrai que c'était technique, mais nous voyons la précision de ta pensée, Seigneur, la précision de l'archéologie qui nous prouve jour après jour la fiabilité de la parole de Dieu et la prophétie, Seigneur. Comment est-ce qu'on peut même... On ne sait même pas réagir face à ces chiffres tellement énormes. Seigneur, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de dire merci. Merci à toi. Merci à ton Fils Jésus-Christ. Merci au Saint-Esprit, Seigneur. Merci et merci encore pour notre salut, pour Jésus-Christ, pour son sacrifice, pour sa mort, pour sa résurrection. Merci pour la parole de Dieu, Seigneur. Je n'ai même plus les mots pour te remercier. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Et pardonne-nous encore pour la froideur que nous avons parfois vis-à-vis de la parole de Dieu, Seigneur. Aide-nous à être un peuple de la Bible. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.